narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h, sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, bien évidemment. Et donc, voilà, ce soir, comme tous les lundis, on va se faire une petite revue de presse cannabique principalement, mais aussi on va parler d'autres contextes, d'autres substances. On ira faire un petit tour... à Paris, avec cet article du Parisien qui nous parle un peu de l'ouverture de la nouvelle salle de consommation à moindre risque. Salle de shoot à Paris, plus d'une centaine de toxicomanes déjà inscrits. Voilà, on verra ça plutôt en fin d'émission. On va s'intéresser également un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis depuis l'élection de Trump. On verra que les cannapreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs en cannabis, tels qu'ils sont désignés aux États-Unis, se font beaucoup de soucis avec l'élection de Trump et plus particulièrement avec la possible désignation au poste d'attorney general, donc de ministre de la justice, en fait, d'un prohibitionniste, hein, quelqu'un qui a toujours pris des positions très claires et anti-changement des lois sur les drogues. Donc forcément, il y en a que ça inquiète malgré le succès dans les urnes de différentes propositions dans certains états pour légaliser le cannabis, ou d'un point de vue thérapeutique ou d'un point de vue récréatif, ou les deux en fait. Donc voilà, on va voir un peu ça. On ira voir également ce qui se passe dans d'autres pays, comment les lois avancent en Australie, mais aussi en Argentine. Et puis on verra un peu ce qui se passe à Zurich en Suisse aussi, parce que là-bas apparemment il y a quand même des choses qui bougent. Un petit colloque sur le cannabis organisé à Noise-la-Ville. Voilà, on parlera un petit peu de ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Non, ça a l'air d'être à peu près tout. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour en France, un peu à droite à gauche, en province, alors un peu dans l'est de la France, à Briey, avec cet article du Républicain Lorrain. Puis on ira un peu dans le sud-ouest, juste après, dans les Landes. Alors pourquoi est-ce qu'on va aller faire un petit tour dans ces deux endroits? Ben parce que à deux reprises, la police est venue chez des individus, des familles, des foyers, hein, qui cultivaient du cannabis à domicile. Et donc voilà, interpellation. Alors, tout comme toujours, hein, ça se passe essentiellement par des dénonciations. Alors là, c'est le cas à Briey, tel que nous le relate le Républicain Lorrain du 24 novembre. Avec un couple qui passe au tribunal, voilà, et ça commence comme ça l'article. Mais vous avez conscience quand même que c'est interdit, hein, demande la présidente du tribunal correctionnel de Briey à ce couple de quadragénaires qui faisait pousser dans leur chambre des plants de cannabis, voilà, sans trop d'ailleurs voir où était le problème, hein, d'après eux. Voilà, bah ils doivent forcément s'expliquer devant la justice. Monsieur explique pourquoi il faisait pousser du cannabis chez lui. Ben tout simplement, il explique, comme je pense beaucoup de gens auraient fait, hein, que le prix de l'herbe devenait inabordable, qu'elle était de mauvaise qualité, mal séchée. Donc voilà, suite à ce constat, il a acheté une box, sorte d'armoire dotée d'un tuyau en aluminium permettant d'évacuer les vapeurs vers la fenêtre, nous dit le journaliste du Républicain Lorrain. Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils sont compétents sur la question, comme toujours. Voilà, tout ça pour sa consommation personnelle. En plus, rajoute-t-il, c'était pratique, ça faisait pas d'odeur. Par rapport à l'illégalité de sa démarche, l'individu confie à la justice en avoir pris conscience assez tard, voilà, jurant que lui et son épouse n'avaient jamais d'ailleurs fumé devant leurs enfants. Et qu'apparemment, ce serait un peu grâce à l'une de leurs filles qui se serait rendu compte que c'était grave, constate-t-il. Voilà, il dit, voilà, quand j'ai dû expliquer à la plus jeune qui a 8 ans ce que les policiers faisaient dans notre appartement. Voilà. Mais ça lui a empêché pas d'assurer son emploi de voltigeur, pourtant dangereux, dit-il. Mais bon, pas de problème de ce côté-là. Son épouse dit, ben voilà, chez lui c'est aussi chez moi, donc je lui ai permis d'installer son matériel. Voilà, la présidente rappelle aux prévenus que pour la seule détention de stupéfiants, on pouvait risquer jusqu'à 10 ans de prison. Les deux époux assurent ensuite avoir décroché. Monsieur a retrouvé un travail. Bon, ils avaient jamais été inquiétés par la justice auparavant. Voilà. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Encore une fois, hein, quand on a quand même ce genre d'affaires dans la presse quotidienne régionale, au cirque, on en profite malheureusement un peu pour rappeler à nos auditeurs et auditrices que parfois la justice peut avoir la main lourde. Et là, quand même, je trouve que c'est quand même ce qui se passe pour ce couple. Hein. Écoutez bien, l'individu, le monsieur, hein, devra purger une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et notamment avec une obligation de travail et de soins. Bon, il avait déjà un travail, hein, je ne sais pas en quoi ça s'applique à lui, mais bon. Et son épouse, elle, est condamnée à 2 mois avec sursis. Je vous assure que vraiment, c'est une peine très lourde, surtout pour des gens qui n'ont jamais été condamnés auparavant. Voilà, c'est donc, encore une fois, faut être méfiant, même si on a tout le matériel qu'il faut, il vaut mieux éviter de trop en parler à son voisin, ou en tout cas de le faire avec des gens avec qui on a confiance. Voilà, c'est compliqué, toujours. Donc prudence, voilà. Et le deuxième exemple, là, bah, c'est un Landais de 66 ans, qui lui cultivait du cannabis dans sa grange, dans le sud-ouest de la France. Et là, c'est quand même un peu différent. Alors la police aurait quand même, je lis hein, l'article hein, de Sud-Ouest, la police quand même aurait saisi 5 kilos d'herbe en culture, en cours de séchage et prête à consommer. Voilà, je vous avoue que là, je ne sais pas trop de quoi il parle finalement, parce que 5 kilos d'herbe qui étaient en même temps en culture, mais aussi en cours de séchage, donc ça fait plus finalement que 5 kilos. Voilà, l'individu explique qu'il s'était mis à cultiver il y a 2 ans. Il a reconnu les faits hein, tout de suite après son interpellation mercredi la semaine dernière. Quelqu'un aussi d'inconnu des services de justice et de police. Voilà, donc 2 kilos d'herbe toujours en plan. Alors, quand on lit ça toujours en plan 2 kilos, il faut enlever au moins 1 kilo, parce que quand il pèse tout, hein, la tige, le pot avec, même s'il faut, donc bon, en gros, ça ne va pas dire grand-chose. Mais aussi 2 kilos en cours de séchage, et également 1 kilo d'herbe déjà conditionnée dans des bocaux de cuisine ont été retrouvés dans sa ferme. Donc ce kilo-là, par contre, ça a l'air d'être un vrai kilo, hein, c'est l'air d'herbe en tant que telle, de fleurs, quoi. Le reste, bon, à mon avis, c'est très exagéré. Il aurait également été interpellé avec 2000 euros dans sa voiture. Et alors là, incroyable. Donc voilà, si vous voulez trouver de l'herbe pas chère, je vous invite à aller dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, parce que d'après sudouest.fr, là-bas, le gramme se revend autour de 4 euros. Ah, donc c'est certainement l'endroit de France où le prix de l'herbe est le plus bas. Quand on sait que dans les grandes villes, le gramme d'herbe peut se négocier jusqu'à 15 euros. Voilà, donc du côté de Mont-de-Marsan, là-bas, c'est 4 euros le gramme. Voilà, à bon entendeur. L'individu a quand même été laissé libre. L'enquête se poursuivrait, a priori, normalement, selon les forces de police. Voilà un peu pour les histoires de culture en intérieur, à domicile, que nous avons sélectionné cette semaine. On peut pas toutes les sélectionner et en parler tous les lundis, parce que sinon il faudrait qu'on fasse une émission consacrée uniquement au sujet de la saisie de plants de cannabis à domicile ou l'interpellation de petits revendeurs. Il y a beaucoup beaucoup de cas comme ceci, plus ou moins similaires hein, dans la presse quotidienne régionale de partout en France. Voilà. Alors, on va s'écouter un peu de musique, puis après on va parler d'un autre fait divers, quelque chose qui s'est passé en Seine-Saint-Denis il y a une dizaine de jours déjà. Et d'ailleurs, c'est pas rien non plus. Donc, allez, on s'écoute un peu de musique. À tout de suite.
Monte la sève, monte la sève, monte la sève, monte la sève. Elle s'élève, s'entraide jusqu'à mes lèvres, et elle m'élève les sens, l'esprit là. Elle m'enlève l'inhibition qui colle à mes semelles de plomb. De plomb, de plomb, de comme le maçon à sa truelle. Les bretons ont de l'hydromel, les éboueurs ont leur poubelle, les gros fachos ont leur pucelle. Tel apiculteur qui fait son miel, prend bien soin d'elle car elle est si belle. Pas d'artificiel, non, elle est naturelle. Même si t'es séquard, tu n'auras pas de séquelles. Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez, vas-y, routon, que je dis, c'est parti. Eh bien, partez dans la partie. C'est parti, et bien parti dans la partie. Tous les fêtards qui font des pétards tard dans les couloirs de tous les bars ont quelquefois bien des déboires. Alors ils cherchent dans leur mémoire, dans quelle armoire, dans quel placard, cette petite boulette de noir, cet tapis dans le noir. Ouais, je sais pourquoi ils sont toujours en retard. C'est qu'ils veulent que chaque instant soit un hectare. Un hectare ou deux, ou trois hectares de bœufs sur une colline à Montolieu. Ça serait-il pas merveilleux?
Yes, I... Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, routon, tout ce qui s'est parti. Et bien parti dans la partie. Oui, c'est parti.
Passe-moi des gueufs, stuff, je vais me déchirer, faire la teuf. Putain, des keufs. Ah puis merde, j'en ai rien à treuf, ça fait 20 piges, tu piges, que tu nourris ma parano. Les copéages, j'en nage, m'empresse de planquer mon bédo. Faire serrer par les bleus, feriez fou pour un joint de faux. La police, comment suisse nous lâche un peu sur le cannabis. Avec des cigares, tu pauvre repère, qu'un tard chaud, on va se le faire. J'ai baillé pour une petite mèche, dispense-moi ta morale à deux balles. Ouais, je sais, c'est illégal, comme l'absinthe ou la faute fiscale. Crétin, qu'est-ce que tu crois? Qu'on a deux kills dans la grosse caisse ou quoi? Quand Yannick Noah, nous on pratique le mine d'or. Une vraie mine d'or. Tous les ans nous descendent la palme du pétard d'or.
Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, on fait que ce qui s'est passé. Et bien parti dans la partie. Où c'est parti. Et bien parti dans la partie.
Pas de bière, pas de shit, nothing to eat. Tu te dépites deep dans ton gîte. Alors quitte ton site, quick, vite, avant que tout ne périclite. Au risque de te confronter à tes limites.
Car limite c'est miettes et tout c'est frites. Quand l'alcool rattrape le shit, shit. On prend Paris la main, shit, shit. Il faut le rouler, le shit. Chut, faut pas en parler, non, non, le shit, shit, il faut le fumer.
Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez, vas-y, on va se faire. C'est ma poche dans la main, et les yeux qui ont leur bœuf. Avec tous les dealers qui ont leur beurre en moins de deux. On a un poil dans la main, et les yeux qui ont leur bœuf. Avec tous les dealers qui ont leur beurre en moins de deux.
Poil dans la main et les yeux couleur bœuf. Avec nous les dealers, couleur bœuf en moins de.
Voilà, voilà, on vient de s'écouter Las Patatas Espantadas avec le morceau Shit, le shit chute. Voilà, titre bien à propos. Donc voilà, on va maintenant faire un petit tour en Seine-Saint-Denis et plus particulièrement à Saint-Denis. Voilà. Où il y a une dizaine de jours, il s'est passé un truc quand même pas banal. 23 agents municipaux, et c'était pas rien. Hein, 23 agents municipaux donc de la mairie de Saint-Denis qui ont été suspendus. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même eu une saisie jeudi il y a 15 jours de 500 kilos de cannabis.
Oui, oui.
500 kilos de cannabis qui ont été saisis dans un camion en provenant d'Espagne et qui étaient sur le point de se garer, où ça ? Ben, au centre technique municipal de la ville de Seine-Saint-Denis. Voilà, donc c'est quand même pas banal. Donc cette mesure de suspension vise donc les gardiens du centre technique municipal, mais aussi la totalité des employés du service des fêtes et des cérémonies. Donc en tout, bah, ça fait 23 personnes. C'est en tout cas la décision qui a été prise par la municipalité, voilà, de suspendre donc l'ensemble du service dans lequel a travaillé l'un des employés, notamment interpellé jeudi. Alors que ben voilà, il s'apprêtait à réceptionner la demi-tonne de cannabis dans le camion. Chez cet individu, on aurait également retrouvé 96 000 euros. Non, pas chez lui, sur lui. Donc sur lui. Donc c'est un individu de 36 ans, qui visiblement a été incarcéré comme deux autres personnes, donc qui serait le chauffeur du camion, un homme de 59 ans, et aussi celui de la voiture qui ouvrait la voie, un homme de 28 ans. Ça ressemble à un go fast. C'était peut-être plutôt un go slow ou un go moyen, je sais pas comment dire, parce qu'avec un camion, ça peut pas forcément aller très vite. Voilà, les autres employés qui ont été suspendus sont eux priés de rester chez eux. Voilà, tout en ils continueront à percevoir leur salaire, mais ils sont quand même suspendus à titre conservatoire le temps de réaliser l'enquête administrative, laquelle peut pas durer plus de 4 mois. Après, bon, il faut que la municipalité décide un peu de ce qui va leur arriver, s'ils sont suspendus définitivement, licenciés ou pas, je sais pas. Voilà, donc l'adjointe Front de Gauche en charge des bâtiments communaux, voilà, a expliqué qu'il fallait mettre tout en œuvre et que tout était mis en œuvre pour que l'enquête ne traîne pas trop en longueur, qu'en raison de l'ampleur du phénomène, l'enquête serait menée par une autorité indépendante. Voilà. Moralité de l'histoire, je sais pas s'il y en a une, mais en tout cas, voilà, il y a des agents techniques municipaux qui visiblement aiment bien le cannabis, hein, on peut le dire comme ça, qui voilà, ont considéré également que les locaux techniques mis à la disposition par la ville faisaient bien l'affaire pour stocker le cannabis. Voilà, je rigole, hein, c'est un peu ironique, mais voilà, ils ont pris beaucoup de risques, toutes ces personnes ont pris beaucoup de risques, et malheureusement, je sais pas comment ça va se finir pour elles, mais probablement pas très bien, compte tenu de l'ampleur, la quantité de cannabis qui a été découvert dans le camion, quoi. Voilà, pour ce qu'on pouvait dire au niveau de Saint-Denis. Voilà, maintenant des choses très intéressantes, donc comme je vous disais en début d'émission, il va y avoir un colloque organisé. Alors attendez, organisé à l'université Paris Diderot, voilà, dans le 13e arrondissement, à l'initiative d'un collectif qui s'appelle Noise la Ville. Voilà. Donc c'est un collectif qui souhaite porter à la connaissance du public le plus large possible différentes choses, notamment au niveau des drogues et notamment au niveau de ce qui se passe dans différents pays, de ce qui pourrait éventuellement se passer en France si les choses évoluaient. Donc pour discuter de cette conférence et en débattre, seront présents donc l'économiste de la santé et des addictions Christian Benlagdar, qui a co-réalisé le rapport Terra Nova sur le cannabis, qui a été rendu public en décembre 2014, donc 2 ans déjà. Il y aura aussi Sébastien Béguery, PDG d'Alpha 4, qui est une entreprise qui propose une méthode pour déterminer la concentration de THC dans le cannabis, que ce soit l'herbe ou le hashish. Également autour de la table, un rappeur et ancien dealer, Hype. Il y aura aussi Stéphane Gatignon, maire de Sevran, qui a régulièrement appelé à légaliser le cannabis pour en finir avec le trafic. Il y aura aussi un sociologue, David Weinberger. Tout ça sera animé par un journaliste du site internet Vice, Yerim Sar. Voilà. Donc les intervenants vont débattre des enjeux économiques d'une légalisation du cannabis, des retombées financières jusqu'à l'impact de cette légalisation, de cette possible légalisation en France, mais aussi l'impact sur les trafiquants de drogue eux-mêmes. Voilà. Si ça vous intéresse, si vous pensez être proche de la région parisienne demain et que vraiment vous voulez assister à ce colloque, c'est possible. L'inscription est gratuite, mais elle est obligatoire, nous dit-on. Et pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site www.eventbrite.fr, event, eventbrite.fr, billet conférence cannabis en France. Voilà. Vous tapez ça et vous devriez pouvoir trouver la page pour s'inscrire. Quoi d'autre? Oui, il y a d'autres informations sur ce site. Alors, je vous lis un peu le résumé de ce qui est proposé. Donc, en Europe, les Français sont les premiers consommateurs de cannabis malgré des politiques publiques extrêmement répressives, coûteuses et inadaptées à la réalité des trafics et à la complexité des modes de consommation. La législation actuelle ne fait chuter ni l'offre ni la demande. Tandis que le débat sur le cannabis a longtemps été centré autour de problématiques liées à la santé et à la sécurité, ce sont désormais ces questions économiques qui concentrent l'attention des chercheurs et des politiques. Selon l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, le marché illicite du cannabis se chiffre à plus de 830 millions d'euros par an, alors que certains pays, comme les États-Unis, l'Uruguay, le Portugal ou les Pays-Bas, alors pour les Portugais, en tout cas, c'est pas vrai, parce que plus loin, il est écrit que ces pays renflouent leurs caisses en taxant la vente de cannabis légal pour financer des politiques sanitaires de prévention, de contrôle de qualité. Donc voilà, pour le Portugal, c'est absolument pas vrai. Le Portugal a dépénalisé l'usage des drogues, mais ne l'a pas légalisé, donc ne taxe pas la vente de cannabis. Voilà. Si on part de l'hypothèse selon laquelle la légalisation du cannabis en France, autant dans son usage récréatif que médical, donc si on part de l'hypothèse que la légalisation du cannabis en France est effective, on peut se poser les questions, c'est-à-dire quelles seraient alors les questions qui se poseraient donc du point de vue des trafiquants, des institutions publiques et de la société. L'État devrait-il s'approprier le marché en monopole public ou bien soumettre ce commerce aux lois du marché? Quelles seraient les mesures de régulation à mettre en place, notamment dans la qualité du produit devenu légal? Comment l'État gérerait-il les recettes et les coûts engendrés par la légalisation du cannabis? Comment ce commerce dépénalisé s'insérerait-il dans la législation européenne? Comment évolueraient en France les zones de marché et de réseaux illégaux? Quel impact un marché légal du cannabis aurait sur les trafics des autres drogues considérées comme dur. Voilà, donc si éventuellement ce genre de débat peut vous intéresser, comme je vous le disais, donc si vous pouvez vous rendre à Paris, si ça vous intéresse, eh ben voilà, vous savez ce qu'il vous faut faire. Donc il faut vous rendre sur le site internet eventbrite.fr /e/billet-conférence-cannabis-en-France. Voilà, je pense que déjà si vous mettez tout ça, vous devriez pouvoir vous inscrire. Voilà, un peu ce que je voulais vous dire. Donc si ça vous intéresse, voilà, ça se passe à l'université Paris Diderot, dans le 13e arrondissement de Paris, à l'initiative du collectif Noise La Ville. Vous pouvez également retrouver ces informations sur la page Facebook du Cirque Lyon ou du Cirque. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant on va s'écouter un peu de musique plutôt électronique avec un petit peu d'acide dedans, je le sens, je l'entends. Voilà, à tout de suite. We'll be right back. Yo, on vient de s'écouter Louise Michel, eh oui, Tribute to Magic Mystery Marijuana. Un bon petit morceau de musique électronique. Voilà, avant de retourner dans l'actu, non, rien de spécial, oui, je vais enchaîner. Donc voilà, j'allais vous dire, on va s'intéresser maintenant à ce qui se fait aux États-Unis. On va rester en Suisse, on va rester en Europe avec ce qui se passe à Zurich principalement. Ah, alors on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a certaines villes, grandes villes de Suisse qui voudraient faire changer leur loi sur le cannabis à l'initiative de partis plutôt classés à gauche, des partis écologistes également. C'est ce qui s'est passé par exemple à Zurich dernièrement. Le conseil municipal de Zurich a donné suite mercredi à un vote favorisant l'accès au cannabis thérapeutique pour les malades, avec un vote très largement majoritaire de 80 voix pour et de 36 contre. Donc c'est quand même assez important. Alors, il y a quand même une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique qui existe aujourd'hui en Suisse et qui permet aux malades de se fournir en produits à base de cannabis. Mais apparemment, la procédure administrative est tellement compliquée que la plupart des patients se gênent pas, vont pas s'emmerder à faire ça et font pousser du cannabis tout simplement pour pouvoir se soigner. Et forcément, criminaliser ces gens n'a absolument aucun sens. Donc voilà. Du coup, la ville de Zurich souhaite faciliter en fait un peu les choses pour que les malades puissent obtenir du cannabis thérapeutique d'une manière ou d'une autre. Donc le nouveau système de distribution de cannabis permettrait donc aux personnes souffrantes d'une maladie et pour lesquelles les effets du cannabis soulagent leurs symptômes d'accéder à une carte d'identité qui leur serait remise par les autorités, et du coup elles auraient le droit de consommer des produits cannabiques pour des raisons médicales. Voilà. Alors avant que ça soit en vigueur, la ville de Zurich doit bien évidemment présenter un programme, obtenir une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique, ce qui n'est pas encore gagné. Voilà, il faut quand même rappeler qu'en Suisse, il y a quand même aussi des partis extrêmement conservateurs qu'on peut comparer aux républicains en France. Alors, l'un de ceux-là, c'est l'UDC. Et il y en a un autre, je crois, encore plus à droite, c'est le PLR, qu'on pourrait peut-être plutôt rapprocher du Front National. Mais honnêtement, je crois que les deux sont assez proches idéologiquement et je ne suis pas certain qu'ils soient très éloignés tous les deux du Front National et des Républicains, surtout qu'en plus là ce qu'on voit en France avec les Républicains, avec la nomination de Fillon qui campe sur des positions extrêmement conservatrices. Donc bon, voilà, tout ça, hein, ça fait presque une seule et même entité avec des nuances bien évidemment, mais bon, c'est quand même important les nuances aussi, il faut le dire, c'est vrai. Après la Suisse, où, comme je vous le disais, hein, dans certaines grandes villes, les choses avancent. On avait vu ça aussi à Lausanne et puis à Genève. Donc là, c'est Zurich. On va voir où ça mène. Allez, maintenant, on traverse carrément la planète et le globe. On va faire un petit tour en Australie. On parle parfois un petit peu de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui, comparé à ce qui se fait chez nous, sont des pays carrément progressistes et en avance, que je vais pas mettre dans la même catégorie que le Canada, qui est un peu ou l'Uruguay, hein, qui sont un peu des pays à part, mais l'Australie semble prête à emboîter un peu le pas aux Américains, aux États-Unis. En tout cas, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez positif, même de carrément positif ces dernières semaines, puisqu'il semblerait que le pouvoir politique australien ait modifié sa loi sur le cannabis, enfin sur les stupéfiants et sur le cannabis en particulier, puisque le ministre australien de la Santé a déclaré dans un communiqué la chose suivante. Je vais vous lire la déclaration du ministre australien de la Santé. Quelque chose qu'on aimerait bien entendre dans la bouche de notre ministre de la Santé ici dans l'Hexagone, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, le ministre australien de la Santé qui a dit « Aujourd'hui est un jour historique pour l'Australie et les nombreux partisans et sympathisants qui ont combattu longtemps et durement pour contester la stigmatisation autour des dérivés du cannabis médicinal. » Et donc toutes ces personnes ne seront plus traitées comme des criminels. Moi je dis bravo. Donc des paroles justes en effet et sensées dans un monde qui en a oublié la signification. Voilà. Donc ce petit truc là, il s'est passé inaperçu dans la plupart des grands médias et on trouve l'info dans astucesnaturelles.net qui est plutôt un site qui délivre des informations sur sur l'utilisation des plantes. Voilà. Donc on trouve cet article là là-dedans. Je pense qu'on devrait en avoir un écho dans d'autres journaux prochainement. Voilà, donc dans ce petit journal sur Internet, ben voilà, on nous dit que cette décision forcément elle rejoint celle qui a été prise dans plusieurs États américains qui ont eux aussi décidé de légaliser l'exploitation du cannabis et de ses dérivés, tant à des fins thérapeutiques et médicinales que récréatives. Voilà, mais la légalisation en Australie n'est pas encore finalisée. Même si le Parlement a approuvé la décision à la majorité, et la ratification écrite devrait intervenir dans les prochains mois. Pour le moment, en tout cas, ben, désormais, les patients qui se font traiter avec de la marijuana médicale pourront bien évidemment commencer à la cultiver sur leur terre sans problème. Donc, c'est-à-dire que l'autoproduction est autorisée pour les malades, en tout cas pour les malades pour le moment. On verra ce qu'il en est pour les... Elle n'est pas malade, hein, et qui veulent juste cultiver et consommer du cannabis à des fins récréatives. On nous explique que c'est également une énorme avancée pour la médecine alternative et une joyeuse nouvelle pour les partisans d'une marijuana à des fins thérapeutiques à travers le monde. Et donc, si l'Océanie l'a fait, d'autres continents comme l'Amérique du Nord et l'Europe feront bientôt la même chose. C'est juste une question de temps, tout à fait, car la question n'est pas se demander si ça va se passer, mais quand ça va se passer. Et je crois que, étant donné que le mouvement a été lancé, je pense que c'est inéluctable. Voilà. Un autre pays qui avance petit à petit vers un changement de législation qui a déjà dépénalisé l'usage il y a à peu près 7 ans maintenant. Là, c'est carrément officiel. Excusez-moi, j'entends des bruits. C'est dans le studio, notre collègue chasseur de son fait du bricolage. Donc voilà, c'est les députés argentins. Voilà, c'est en Argentine que ça se passe. Donc en Argentine, qu'est-ce qu'ils ont décidé, les députés? Eh ben, ils ont décidé de voter pour une loi utilisant et autorisant l'usage thérapeutique de l'huile de cannabis. Voilà. Pour autant, l'interdiction de cultiver la plante a été maintenue, pour le moment en tout cas. Donc c'est une loi qui doit encore être approuvée par le Sénat, mais qui quand même permettra l'importation d'huile de cannabis pour les patients qui ont obtenu des prescriptions médicales. Ça permettra aussi au ministère argentin de la Santé de fournir gratuitement le médicament dans des cas d'épilepsie, d'autisme et d'autres pathologies. Voilà. Il y a une ophtalmologue qui s'exprime, Carlos Larré, qui est à la tête de la clinique de Cordoba, qui dit qu'elle a 1000 patients en traitement, dont des malades atteints de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer et d'épilepsie. Voilà. Pour autant, c'est encore pas la panacée. Hein. Il y a la maman d'une fillette de 11 ans qui est atteinte d'épilepsie, qui s'exprime, Pamela Vicente, et qui assure elle qu'elle continuera de cultiver illégalement du cannabis, tout simplement pour une question de coût. Elle dit comme ça, voilà, il faut qu'ils arrêtent de nous criminaliser. Nous cultivons cette plante car c'est la manière la plus facile de se procurer la variété qu'il nous faut et qui est la plus efficace en fonction de la personne. L'huile qui va nous être proposée et va être importée des États-Unis, c'est une variété efficace pour 20% des patients seulement. Je regrette donc Pamela qui milite dans l'organisation Mama Cultiva. Dans cet article de la Tribune de Genève, hein, on nous rappelle que l'Uruguay, donc, qui est un des voisins de l'Argentine, a légalisé la culture et la vente du cannabis. Voilà, allez, on va s'écouter encore un petit morceau de musique. Et puis après, on revient, On revient tout de suite après. Allez, à tout de suite.
J'ai pris des vices avec des listes par vis. Par plaisir, éclater en complément de nos délires ou pour tuer l'ennui, voire pire.
On dit souvenirs en fumée. Pour la partie, cette personne, elle est même pas milliers. Une partie de notre vie, à la oui délié. Je veux jamais nier ni renier, même pas face aux douaniers.
À ta santé.
On passe le temps, mais j'ai rien oublié.
Rien. Et dans ces souvenirs, du bon comme du mauvais, c'est qu'on vient relater. Pas pour s'en vanter ni inciter. C'est l'histoire des jeunes fumeurs. Viens compter histoire de ganja. Au micro c'est Emilia. Dans le spiff n'est la familia. Histoire de ganja. Au micro c'est Emilia. On s'en cache pas, mais ça en vend pas. Histoire de ganja. Au micro c'est Emilia. Dans le spiff n'est la familia. Histoire de ganja. Au micro c'est Emilia. On s'en cache pas, mais ça en vend pas.
C'était Cincy Milia, histoire de ganja. Allez, pour terminer l'émission, maintenant, on va faire un petit tour aux États-Unis avant de revenir en France pour parler des salles de consommation à moindre risque. Alors bon, aux États-Unis, comme on vous l'a déjà dit, comme vous l'avez su sans doute, c'est difficile de pas s'en être rendu compte ou de ne pas l'avoir entendu. Il y a eu une élection présidentielle au début du mois de novembre. Et celui qui est sorti vainqueur des élections, c'est Donald Trump. Alors Donald Trump, voilà, il suscite beaucoup d'interrogations aux États-Unis. parce que c'est quand même quelqu'un d'assez inclassable, en fait, il faut le dire. Alors bon, il s'est présenté à la primaire et il a remporté la primaire chez les Républicains. Pour autant, jusqu'au début des années 2000, Trump était quand même plutôt classé côté démocrate. C'est quelqu'un qui a même financé l'élection, la campagne aux primaires de Clinton, d'Hillary Clinton en 2008. Au début des années 90, il s'était carrément déclaré pour une légalisation de toutes les drogues pour couper l'herbe sous le pied des trafiquants. Il se faisait prendre en photo avec des personnes transgenres, réclamant un changement des lois aux États-Unis sur la transsexualité et la transidentité. Quelqu'un qui avait quand même plutôt des positions assez ouvertes, et même carrément libertariennes sur ces sujets. Et puis, il a remporté les élections donc au mois de novembre sous la bannière républicaine. Donc bon, c'est quand même assez, c'est quand même un personnage singulier. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est milliardaire également, qui se dit anti-système comme beaucoup de personnalités politiques. Souvent à droite ou avec d'extrême droite, mais maintenant tout le monde se réclame de l'antisystème. Même François Fillon se déclare comme faisant partie de l'antisystème, alors qu'on n'est pas plus dans le système qu'un François Fillon, une espèce de cato réactionnaire, très traditionnaliste, ancré dans une France rurale. Lui, il se dit anti-système, comme se dit anti-système Marine Le Pen ou même Jean-Luc Mélenchon. Donc bon, voilà, c'est plus trop ce que ça veut dire. Que dire d'autre à propos de Trump? Il semblerait que quand on voit un peu les personnes qui s'apprêtent à nommer dans son gouvernement, on n'a pas affaire à des gens anti-système, on a affaire plutôt à des gens comme lui, c'est-à-dire des gens milliardaires, extrêmement conservateurs, ce qui tranche quand même avec son parcours ces deux dernières décennies. Voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets aux États-Unis, et notamment ce qu'on appelle les cannapreneurs, c'est les entrepreneurs du cannabis, qui savent pas trop comment tout ça va se passer. Ils se demandent à quelle sauce ils vont être accommodés par l'administration Trump. Si je reprends les propos de Corinne Laine, qui a écrit cet article dans Le Monde le 20 novembre dernier, doivent-ils se fier au flou des propos de campagne, croire ceux qui affirment voir poindre au bout de la transition un président pragmatique, point d'interrogation, entre guillemets. Voilà. Le candidat Trump n'a pas affiché le dogmatisme très affirmé sur la question de la légalisation, n'ignorant pas qu'elle est soutenue par une majorité de la population. 58% des Américains réclament un changement des lois sur la marijuana. Et ça fait même jusqu'à 63% des jeunes républicains sont favorables à un changement de loi. Une chose qui est claire, c'est que par contre, sur la marijuana thérapeutique, Trump a dit qu'il était pour à 100%. Voilà. Donc bon, à ce niveau-là, il n'y a peut-être pas grand-chose à craindre. C'est plus pour l'aspect récréatif. Voilà. Dans cet article, on revient par exemple sur les février 2016, en 2016, en février, au début de l'année, il était plus trop sûr de rien, parce qu'il disait comme ça: in some ways it's good, in some ways it's bad. Voilà, d'un côté c'est bien, mais de l'autre c'est pas bien, c'est mal. Voilà ce qu'il a dit sur Fox News. Le 18 novembre, les partisans de la légalisation ont eu très peur, ont été horrifiés même par le choix du sénateur de l'Alabama, c'est-à-dire Jeff Sessions, qui serait pressenti comme possible attorney general de Donald Trump. Donc Jeff Sessions, c'est un républicain ultra-conservateur pressenti pour être ministre de la Justice. Alors lui, il est carrément opposé à la régulation du cannabis. Voilà. Et il a dit comme ça que les gens bien ne fument pas de marijuana. Voilà. Voilà ce qu'il avait dit par exemple en avril dernier lors d'une audition au Sénat. Et Jeff Sessions y reproche même à Obama d'avoir banalisé le cannabis en affirmant qu'il n'est pas plus nocif que l'alcool. Voilà. Donc Jeff Sessions, c'est une espèce de un mélange entre Fillon, Le Pen et je ne sais qui, avec ses déclarations. Alors, pour lui, pour ce Sessions, les pouvoirs publics doivent au contraire faire passer le message que la marijuana est une substance, je cite, entre guillemets, dangereuse et non quelque chose d'amusant, encore moins à prendre à la légère. Donc, tous les entrepreneurs du secteur se sont réunis du 16 au 18 novembre à Las Vegas. Et ils ont peur et ils ont beaucoup discuté d'un possible retour en arrière. voilà. Donc l'absence, en l'absence de codification juridique solide, hein, il faut quand même le rappeler, hein, la légalisation repose essentiellement sur la tolérance qui est manifestée par l'administration fédérale et repose uniquement sur des textes qui sont votés et qui sont pris dans les États, en l'occurrence, uniquement. Mais le FBI ou la police de l'État peut la police fédérale, pardon, peut interpeller des gens. Voilà. Et faut quand même savoir que en 2015, la police états-unienne a quand même procédé à 570 000 arrestations pour des faits liés à la marijuana. Donc c'est quand même pas rien, 570 000. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a vu dans la pratique. Hein. Pendant qu'Obama a été président là, ces dernières années, il a quand même laissé faire les expérimentations décidées par référendum dans les États précurseurs, comme le Colorado, qui a été le premier à vendre de l'herbe légalement depuis le 1er janvier 2013, mais à condition que les autorités réglementent sévèrement la culture et la vente. Voilà. Ce que d'ailleurs l'industrie s'est mis un point d'honneur à respecter. Hein. On en a déjà parlé, mais le principal casse-tête maintenant, c'est d'arriver à faire rentrer cet argent qui est propre, a priori, mais à le faire rentrer dans le système bancaire. Et on a vu tout au long de ces mois que c'était très compliqué. Parce que au niveau des établissements financiers, des établissements de crédit, eux-mêmes liés aux banques, eh ben, ça peut pas se faire comme ça. Alors, on a quand même essayé de faire les choses discrètement en mettant en point une espèce de règlement permettant la création ou l'établissement de petits crédits, de petits établissements de crédit. Voilà, bon, ça marche plus ou moins, mais encore une fois, voilà, je rappelle qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'officines hein, qui vendent du cannabis, qui doivent se déplacer avec des valises remplies de billets pour parce qu'ils savent pas quoi en faire, hein, vu qu'ils ont pas le droit d'avoir des comptes ou très peu peuvent en avoir. Voilà, mais dans cet article, on nous rappelle que le secteur repose sur deux textes qui n'ont absolument rien d'irréversible. L'un, adopté par le Congrès, empêche le département de la justice d'engager des fonds pour intervenir contre la marijuana médicale. Mais l'autre est un simple mémorandum du bureau de l'Attorney General ordonnant aux procureurs fédéraux de se désintéresser du sujet dans les États qui ont réglementé le cannabis. Alors le premier, qui est l'amendement Rohrbacher-Farr, est attaché au budget fédéral et doit être renouvelé en décembre. Le second peut être révoqué d'un trait de plume par Trump dès sa prise de fonction le 21 janvier prochain, en 2017. Prochain, quoi. Alors, il faut savoir que quand même beaucoup, par exemple, de climato-sceptiques sur l'environnement ou même les nativistes sur l'immigration, les militants anti-cannabis qui attendent de pied ferme des mesures très fortes voire prise par leur nouveau président. Voilà. Il suffirait que le ministre de la Justice envoie un ultimatum aux autorités chargées de la réglementation dans les États et tout tomberait par terre en fait. Hein. Alors effectivement, les entrepreneurs, eux, ils mettent en avant le poids économique pris par le secteur en quelques années, les dizaines de milliers d'emplois créés, les millions de consommateurs, les millions de dollars de taxes engrangés par les États. Le fait que Jeff Sessions soit pressenti en tant que ministre de la Justice n'est pas une bonne nouvelle, hein, comme le dit Tom Angel, directeur du groupe Marijuana Majority. Mais il dit, voilà, je veux quand même espérer que la nouvelle administration va prendre conscience que la répression créera un problème politique énorme dont elle n'a pas besoin sur une question qui n'est pas une priorité pour le nouveau président. Voilà. Alors l'industrie du cannabis reste quand même optimiste, elle a quand même peine à croire qu'on assiste à un retour total en arrière. Et la foire de Las Vegas a d'ailleurs été le théâtre d'une ruée sur les investissements, notamment dans la marijuana médicale, mais l'incertitude est emblématique de la prise de conscience de la fragilité des acquis de l'ère Obama. Voilà. Donc on attend. Ah, alors le souci, il est quand même, je dirais, il repose pas que sur un sentiment. Il y a aussi un peu plus que ça. Alors ça, c'est un article du Figaro, par exemple, qui est un peu anecdotique, mais comme vous l'avez peut-être entendu, il y a eu des émeutes et des manifestations les soirs qui ont suivi les élections de Trump. Alors Trump a quand même dit une chose qui est assez surprenante, mais qui inquiète beaucoup justement ces canapreneurs. Trump a dit quand même, voilà, si vous n'êtes pas au courant, les drogues jouent un très grand rôle dans ce que vous voyez le soir à la télévision. Voilà, a-t-il déclaré lors d'un discours de rassemblement qu'il a prononcé lors d'un rassemblement des producteurs de gaz de schiste, en plus. Voilà, donc voilà ce qu'il disait. Hein. C'était tous ces événements, c'était lié à un problème. Enfin, c'était les drogues avaient joué un rôle dans la mobilisation et les manifestations. Voilà, c'est assez étonnant quand même de voir ça sous cet angle. Voilà, un petit peu pour les États-Unis. Il nous reste 5 minutes avant de passer l'antenne à Chasseur de Son qui est prêt après à vous étourdir de son à partir de 22h. Donc maintenant voilà, cette histoire de salle de shoot donc qui a fait beaucoup de bruit hein, parce que c'était prévu qu'elle s'ouvre à proximité d'une gare, je me rappelle plus, puis finalement ça avait pas été possible. Il y avait le Conseil d'État, il me semble, qui s'était prononcé contre l'ouverture de la salle de shoot, avec une demande qui a été faite pour revoir la loi, parce qu'effectivement, bah, la loi de 70 telle qu'elle est faite, si on la respecte à la lettre, elle ne permet pas l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque. Elle ne permet pas, tout simplement, à des individus qui viendraient avec leur propre substance qui serait interdite de venir la consommer légalement sous le regard avisé de spécialistes de la santé. Ouais, la loi de 70 telle qu'elle est faite ne permet pas cela, en effet. Et ce qui a priori est logique hein, vu qu'on vit dans un pays prohibitionniste qui prévoit jusqu'à un an de prison pour la consommation d'un simple joint de cannabis. Forcément, quand on détient de l'héroïne et qu'on la consomme dans un lieu sécurisé et légal, ça fait il y a contradiction quand même hein. Donc en tout cas, cette salle elle a quand même ouverte le 17 octobre dernier, 4 rue Ambroise Paré, dans l'enceinte de l'hôpital Lariboisière. Alors ça, c'est pas mal, mais on aurait peut-être aimé qu'elle soit ouverte dans un lieu plus éloigné de l'hôpital, par exemple. Enfin, en tout cas, cette salle de consommation donc est ouverte, accueille chaque jour de 13h30 à 20h30 des consommateurs de stupéfiants. Dans un secteur considéré comme l'un des plus hauts lieux de la toxicomanie dans la capitale Paris, dans la capitale française, donc à Paris. Et on nous dit dans cet article du Parisien, donc, il serait de 110 à 120 chaque jour à en franchir le seuil, soit le double de la fréquentation affichée le jour de l'ouverture pour une capacité d'accueil totale comprise entre 350 et 400 personnes à la journée. Mais après quatre semaines d'activité, la salle continue de diviser et les larges banderoles dénonçant son installation ornent toujours les fenêtres des riverains à proximité. Pourtant, les responsables de l'association Gaïa, hein, qui gère la salle de consommation à moindre risque, donc les responsables, affichent pourtant leur satisfaction. Voilà. Non seulement le déferlement de toxicomanes en provenance de toute l'Île-de-France, redouté par les habitants, n'a pas eu lieu, mais il n'y a pas non plus, selon le responsable, d'attroupements intempestifs devant le centre d'échange ostensible, devant le centre, et il n'y a pas non plus d'échanges ostensibles de produits et de substances illicites aux abords de la salle de consommation. Voilà. Ça fonctionne donc plutôt bien, se félicite la coordinatrice de Gaïa Paris. Elle dit comme ça que nous voyons beaucoup de consommateurs issus du quartier, que nous rencontrions auparavant pendant nos maraudes, avant l'ouverture de la salle. Ils sont très demandeurs de consultations médicales et sociales, maintenant que le lieu s'y prête en toute confidentialité. Ils trouvent, poursuit cette coordinatrice, que le lieu est sécurisant, et même pour les plus rétifs qui ne comptaient pas venir, les toxicomanes se sont inscrits en fait et viennent dans la salle avec ceux qui consommaient jusqu'à présent dans les toilettes publiques du quartier, les parkings et sur les trottoirs. Et avec la salle, donc tout le monde y gagne. Je rappelle quand même que ce genre de structure est ouverte justement parce que on s'était aperçu que beaucoup d'usagers, notamment les plus précarisés, consommaient dans des lieux qui ne garantissait absolument pas des conditions d'hygiène optimales. Voilà, donc là, effectivement, on touche complètement l'objectif qu'on voulait atteindre. Alors, comme toujours, il y a des riverains qui sont contre, mais c'est toujours les mêmes, hein, d'ailleurs, les toujours les mêmes, le même genre de riverains, toujours les mêmes, je sais pas comment dire, réac, hein, parce qu'il faut le dire, hein, ce sont ce genre de gens. Hein, donc, par exemple, les bénévoles de l'association Non à la drogue, Oui à la vie, qui ont inondé les boîtes aux lettres de livrets intitulés La vérité sur le cannabis. Sauf que les individus qui vont dans les salles de consommation en mandroïste ne vont pas pour y consommer du cannabis. Hein. C'est plutôt des gens qui sont consommateurs d'héroïne, par exemple, ou de médicaments, par exemple. Voilà, on est complètement à côté de la plaque. Mais pour ces gens, ça a un sens parce que le cannabis, est, avec la théorie de l'escalade, c'est la porte d'entrée vers des drogues plus dures. Voilà. Il y a aussi le président de l'association Parents contre la drogue, Serge Le Bigot, le bien nommé, qui est régulièrement fait l'objet d'interviews dans Valeurs Actuelles, un journal d'extrême droite. Alors Serge Le Bigot, c'est quelqu'un qui est très très remonté contre toutes les possibilités d'évolution des lois sur les drogues et qui a ouvert un site internet sur internet. Un observatoire des salles de shoot pour informer les habitants du quartier qui peuvent y déposer leurs remarques. Et il nous dit comme ça, je constate qu'il y a toujours autant de seringues abandonnées dans les rues et les squares, note pour sa part Jean-Marc, qui est un habitant de la rue Guy Patin, qui est opposant de toujours au projet. Et il nous dit comme ça, ce Jean-Marc, j'ai même assisté à des échanges de drogue et à des bagarres. Ouais. Des échanges de drogue, à mon avis, on n'a pas que dans le 10e arrondissement et pas que devant la salle de consommation à moindre risque. Je sais pas, il devrait peut-être aller faire un tour dans certaines soirées branchées, il verrait peut-être d'autres échanges de produits, mais bon, ça c'est plutôt toléré, voilà. Alors, il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est le fait que justement les usagers puissent amener leurs produits dans la salle pour les consommer. Alors, ça mobilise beaucoup de monde, notamment là, le procureur de Paris qui propose un périmètre de tolérance de 300 mètres autour de la salle, mais les policiers se posent des questions, puisqu'on peut contrôler à 310 mètres, voire plus loin. Ça va quand même devenir un sujet à interprétation diverse. Sur le terrain de la part de la police, en tout cas, voilà. On a voulu offrir une garantie aux toxicomanes qui transportent de la drogue dans la zone, mais il n'est pas sûr qu'elle puisse être totale, nous disent ces policiers. La police explique aussi qu'il y a bien des contrôles qui sont opérés dans le périmètre, et seules les personnes transportant une importante quantité de stupéfiants, laissant suspecter une activité de deal, sont inquiétées. Quand on lit ça, très honnêtement, et qu'on connaît un peu l'histoire de la réduction des risques en France, en tout cas, ça interpelle. On a l'impression qu'on n'a pas trop avancé. Alors bon, c'est quand même un progrès, cette salle de consommation, mais on avait un peu ce genre de débat avec, par exemple, l'ouverture, l'existence des bus méthadone de Médecins du Monde au début des années 90. Il faut savoir que la police contrôlait les usagers de drogue qui allaient se ravitailler en matériel propre à la descente du bus de Médecins du Monde, et il avait fallu l'intervention du ministère de la Santé pour dire à la police quand même qu'ils aillent un peu plus loin et qu'ils attendent pas tout de suite à la sortie du camion les usagers. Bah là, on a un peu le même problème. La police, voilà, ça les emmerde quand même qu'on puisse consommer des produits. Ils veulent quand même faire leur boulot et interpeller des usagers. Alors voilà, 300 mètres, 310 mètres, voilà, c'est cool. C'est assez absurde, mais bon, c'est le monde dans lequel on vit, et il faut quand même se féliciter que cette salle de consommation à Mandroïsque ait pu ouvrir ses portes le 17 octobre dernier. Voilà. On va donc se quitter sur cette note positive. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté l'émission Cannabis Circus. Comme tous les lundis soirs de 21h à 22h, émission présentée par le Cirque Lyon, le collectif d'information de recherche cannabique que vous pouvez joindre par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez nous écrire par voie postale également, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX. Et également, à l'occasion, visiter notre site internet cirque-lyon.fr et notre page Facebook. Également pour toutes les infos et la revue de presse en direct actualisée toutes les semaines. Voilà, maintenant c'est Chasseurs de Son. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.